Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.
Bonjour à toutes et à tous. Voilà, nous sommes dans la paracha de Vayakel Pkudé. Dans la Torah, on sait qu'il y a, il est marqué qu'il y a 53 parashiot. Mais en vérité, lorsqu'on compte, on trouve 54. Donc ça veut dire qu'il y a une paracha qui est divisée en deux. Donc on le compte toujours par le chiffre de 53 parce qu'il y a une paracha qui est divisée. Il y a de différentes opinions. Quelle est la paracha qui est divisée? Il y a ceux qui pensent que c'est Nitzavim Ve'elech, il y a ceux qui pensent que c'est Dot, Tazria Metzora, mais en tout cas, dans la paracha, il y a ou 53 ou 54 parashiot. Et il n'y a pas de semaine, assez de semaines disponibles pour tous ces parashiot, puisqu'on lit tous les Shabbat une paracha, mais il y a des fêtes lorsqu'il tombe Shabbat. Donc, la paracha est repoussée pour le Shabbat suivant et encore parfois pour le Shabbat d'après. Donc, finalement, on a moins de parashiot à lire, plus de parashiot à lire pour moins de Shabbatot. Maintenant, surtout dans une année où il n'y a que 12 mois, parce que parfois il y a 13 mois, alors à ce moment-là, on arrive à lire presque tous les parashiot dans l'année. Ça dépend aussi comment l'année est composée, c'est comme on a dit tout à l'heure. S'il y a trop de fêtes qui tombent pendant le Shabbat ou non, mais en tout cas, c'est parfois il faut rattraper. Donc on met deux parashiot ensemble. C'est le cas de notre parasha de cette semaine. On va lire Vayakel Pkudé ensemble. C'est aussi pour tout un calcul, pour qu'on puisse lire la paracha Tzav avant Pesach. Il y a tout un système que l'année, donc les parashiot collent à peu près avec l'année. Je dis à peu près parce qu'il y a certaines parashiot que c'est toujours le cas, comme Bamidbar qui est toujours avant Shavuot. Parfois il y a la parasha Nassau aussi, en fait. Donc il y a quelques règles. Avant Rosh Hashanah, on lit toujours la parasha avant, mais il y a Nitzavim avant, etc. Donc pour revenir à ce qu'on dit, il y a plus de parashiot que de Shabbatot disponibles. Donc parfois on met deux parashiot ensemble. C'est le cas de notre parasha, puisqu'on est à la veille de Pesach, et donc il y a certains parashiot qu'il faut lire avant Pesach. Donc on est obligé de mettre ces deux parashiot ensemble. Mais ces deux parashiot, cette fois-ci, sont des parashiot jumelles, parce qu'ils ressemblent beaucoup, on parle du même sujet, seulement que pas tout à fait le même sujet. On parle du même sujet, mais en tout cas, pas tout à fait. Et là, aujourd'hui, on va voir quelque chose d'intéressant, surtout que on sait que toute la Torah, normalement, elle parle de détails, de ce qui s'est passé dans tel endroit à tel moment, ou bien telle loi qui était donnée à tel moment. Comme dans notre cas, on parle de temple. Dieu, il voulait avoir une temple, un temple, donc dans le désert. Il donne beaucoup de détails de ce qu'il attend de nous. Mais donc, alors, ça, c'est quelque chose qui est lié avec le temple et que c'est lié avec un endroit et c'est lié avec un moment. Parce que ce temple, c'était le temple qui n'était pas répété une fois en Israël, en tout cas un petit peu plus tard en Israël. Ils ont construit le temple carrément différemment. Ça, c'était le temple plutôt portable. Mais une fois en Israël, comme on l'a dit un petit peu plus tard, une fois qu'ils se sont installés en Israël, là, le temple a changé carrément de style. Si jusque-là, c'était de différentes matières, comme on voit ici, de bois et d'autres choses, et avec des toitures qui est assez spéciales. Et là, ça va être en pierre, il y a pas mal de l'or, mais en tout cas, quand même, la matière a changé. Donc, apparemment, ça ne nous concerne pas. Et pourtant, même si on peut dire que la vision matérielle ne nous concerne pas, mais le message de ces Mishkan, avec tous ces détails, nous concerne à toujours. Donc, alors, la Torah, elle est éternelle. Alors, il y a certains détails qui, il nous semble qu'en ce moment, c'est pas dans l'actualité. Alors, même s'il y a une vérité là-dedans, c'est pas tout à fait vrai, parce que dans d'autres domaines, ça existe. Mais on voit, au niveau spirituel, c'est sûr que ça existe. Alors aujourd'hui, on va rester sur une idée un petit peu plus générale, que même si on parle de, comme on a dit tout à l'heure, que la parasha nous parle d'un sujet assez précis, et donc il y a des détails qui sont liés, mais en même temps, la Torah nous donne une vision, comment on regarde sur le monde, et cette vision est liée avec tout le monde, tout le monde sont concernés, parce qu'on parle ici d'une vision des détails par rapport au général. On est dans un monde où il y a beaucoup de détails. Et tous ces détails créent un monde général. Alors, un lien, trouver le lien entre le général et le détail, parfois c'est difficile. Il y a des gens qui vivent dans ce monde et ils ne s'intéressent pas à ce qui se passe autour d'eux. Pour eux, le monde a commencé au moment de leur naissance et le monde va s'arrêter au moment de leur mort. Et quelque part, ce qui les intéresse, c'est eux-mêmes. Bien, ce qui se passe autour, on ne fait pas partie, on fait partie obligatoirement, on fait partie de ce monde. Mais ce qui m'intéresse à moi, en fait, selon cette vision, c'est les détails. Alors, c'est vrai que la vision de la Torah n'est pas comme ça. C'est qu'il y a beaucoup de détails dans ce monde, et ces détails forment un ensemble. Alors, les détails sont liés avec l'ensemble, et l'ensemble dépend des détails. C'est vrai que dans la vision générale, parfois on sacrifie les détails en faveur de la majorité ou bien en faveur de l'ensemble. Il y a beaucoup de visions, beaucoup de politiques. En fait, la politique a changé. Est-ce que l'ensemble va défend l'individu ou bien l'individu il fait partie. Il y a beaucoup de visions là-dedans et c'est intéressant de comment voir, comment les gens regardent. Mais comme on a dit tout à l'heure, on va voir un petit peu la vision de la Torah par rapport à cette idée. Donc d'une façon générale, le lien entre général et détail, le lien entre général et détail d'une façon plus large quand il s'agit du peuple juif, et le lien des détails général par rapport au monde entier. Et on va commencer donc par cette paracha, ou comme on a dit tout à l'heure, qu'elle parle de quelque chose de très particulier. Il s'agit d'un temple. Qu'est-ce que c'est le temple? À quoi ça sert le temple? Est-ce que Dieu il a besoin d'un temple? Est-ce qu'on peut limiter Dieu pour un temple? On a parlé un petit peu de ça, à chaque fois on peut voir une autre vision, parce que c'est très très large comme idée. Mais parmi l'idée qu'on a développée, c'est que quelque part c'est pas pour lui, c'est pour nous. Je dis quelque part parce qu'il y a aussi une autre vision que c'est aussi pour lui. Mais aujourd'hui on va parler du fait que quelque part c'est pas pour lui, c'est pour nous. Donc on est dans un monde limité, on est des êtres limités. Mais en même temps, il veut nous donner accès à ces notions non limitées. Donc l'homme, il doit avoir un rapport avec les non limites et avec les non, surnatures. Plus que ça, non limites, parce que même les surnatures sont limitées. Et donc ça, c'est par l'idée des temples. Dans les temples, il y a la présence de Dieu. Et comme on a vu dans certains détails de la présence de Dieu, qui d'une part, c'est très détaillé. Dieu il exige les détails. Et c'est très carré. Il faut que ce soit comme ça et pas autrement. Pas un centimètre de plus, pas un centimètre de moins. Et pourtant, comment on peut comprendre que pour faire habiter l'infini, il faut, c'est par les détails, les limites. Normalement, pour recevoir quelque chose, il faut avoir des réceptacles à sa mesure. Si je veux avoir un litre, alors j'ai besoin d'un récipient d'un litre pour recevoir un litre d'eau. Si je veux avoir 2 litres, alors il faut avoir 2 litres pour recevoir un récipient de 2 litres pour pouvoir recevoir 2 litres. Mais on ne peut pas imaginer que Si j'ai un récipient limité, c'est un récipient qui va recevoir le sans limite. Et surtout que si on est capable de recevoir le sans limite, alors à ce moment-là, il ne faut pas se baser sur la limite et dire, voilà, faites-moi ça avec telle et telle limite. Et pourtant, grâce à ça, tu vas pouvoir recevoir les limites. Alors, c'est un sujet pas compliqué. J'aime donner l'exemple du cerveau et le Makadon et Talmud, qui donne l'habitude humaine. Un récipient large reçoit. Plus qu'il y a des places, plus qu'il reçoit. Moins qu'il y a des places, moins qu'on reçoit. Mais il est marqué là-bas que dans les notions spirituelles, c'est le contraire. Moins qu'il y a des places libres, plus qu'on reçoit. Et il faut comprendre ça, mais on a quand même un exemple dans notre monde physique, c'est que le cerveau, plus qu'il est vide, moins qu'il est vide, plus qu'il reçoit. En tout cas, c'est juste des exemples un petit peu par rapport à une autre notion. Donc alors, dans le temple, c'était ça. Ce temple était très limité et pourtant, et c'était le récipient pour le sans limite. Alors encore une fois, il faut expliquer ça. Pas aujourd'hui, juste pour lancer les choses. Donc le temple, c'était un endroit qui liait les limites et les non-limites. Et les gens s'en profitaient parce qu'on est dans un monde limité. Mais dans ce monde limité, il faut savoir quand même qu'il existe les non-limites. Il faut parfois profiter des non-limites dans certains domaines. C'est pour ça que de temps en temps, on allait dans les temples pour profiter de ça. Et même lorsqu'on est rentré chez nous, alors on a eu cette idée, on avait cette ouverture d'esprit. Donc on avait cette divinité dans notre maison. Ça veut dire que même quand on est rentré dans notre maison, que dans notre maison, dans notre habitude, dans nos comportements, il faut compter. Il faut rendre compte qu'on est limité et l'homme, il se comporte avec les limites. Il ne peut pas dépasser les limites, mais le fait même qu'il était dans le temple, là-bas, il a vu les notions de temps qui dépassaient, les non-temps qui dépassaient le temps et les non-limites qui dépassaient les limites, qui non seulement qui dépassaient les limites, il rentrait dans les limites. Encore un sujet qu'il faut expliquer. Donc, on a profité de cette divinité, de cette expression de la divinité, même lorsqu'on était dans un monde que Dieu il a formé de telle manière qu'il soit limité. Et ça, c'est juste quelques mots par rapport à ça. Maintenant, donc, comme on a dit, dans ce temple, alors Dieu il a demandé des détails. Il veut que ce soit comme ça, et les mesures sont très exactes, à tel point qu'il, comme il est marqué dans cette paracha, et la paracha qu'on a lue il y a quelques semaines, la première fois où il a marqué ça, c'est que ce soit être très veyuto amim. Ça veut dire que ce soit, il ne faut pas, parfois quand on construit quelque chose, il y a quelques défauts passés par là qu'on ne remarque pas. Ici, il ne devrait pas avoir de défauts. Ça veut dire que ce soit carrément tout bien. La Torah, elle insiste. Et c'est une condition pour pouvoir recevoir, comme on l'a dit tout à l'heure, les sans limites. En tout cas, il y a beaucoup de détails. Et la Torah, elle précise les détails. Là aussi, c'est un autre sujet qu'on va pas parler aujourd'hui. Pourquoi la Torah, ici, elle répète plusieurs fois apparemment la même chose. Mais ça, c'est déjà un sujet encore à part qui est très intéressant. Donc, la Torah, elle détaille dans notre paracha, la première paracha Vayakhel. Et dans la deuxième paracha, la Torah nous dit comment, de tous ces détails, on fait un grand temple. Ça, c'est en général, même s'il y a quelques détails qui ne sont pas exacts, mais en général, c'est comme ça. La paracha, elle commence par Vayakhel. Vayakhel, ça veut dire que Moshe, il a réuni le peuple d'Israël le lendemain de Kippour. On sait que Moshe, il était sur le Mont Sinaï, en tout cas selon la vision de Rashi, parce que dans la Torah, ce n'est pas très clair, mais on peut comprendre qu'il était trois fois sur le Mont Sinaï, ça veut dire trois fois 40, la première fois 40. Au bout de 40, le peuple, ils ont fait la faute de Vaudor. Moshe, il a descendu, il a cassé l'étape de la loi. Ensuite, il a fait ce qu'il faudrait faire en bas. Il a remonté pour essayer d'accorder le pardon de Dieu. Et là, ça durait 40 jours et 40 nuits. Dieu, il a accordé le pardon, mais le pardon n'était pas encore complet. Mais ici, il a demandé que Moshe, il refasse les tables, Dieu, il va graver les lois dessus. Moshe, il est descendu, il est remonté, il est resté encore 40 jours et 40 nuits. Mais cette fois-ci, au bout de 40 jours et 40 nuits, non seulement qu'il y avait un pardon, c'était un pardon complet. Et là, Moshe, il revient avec beaucoup de choses. Et surtout, il vient avec le message qu'il faut construire le temple, que le temple aussi représente une notion de pardon, mais le pardon le plus haut et le plus fort, parce que non seulement que Dieu il pardonne, mais bye bye, mais il pardonne, il montre un signe qu'il est parmi nous, donc ça c'était le signe du temple, que Dieu il réside parmi nous. Encore un sujet à expliquer, mais en tout cas ça sert en grand cette idée. Donc ça c'était le jour de Kippour. Ce qu'aujourd'hui on fête le jour de Kippour et correspond au premier Kippour, qu'à ce moment-là, Dieu il accordait le pardon, mais avec joie, comme il est marqué. Avec beaucoup de volonté, comme quelqu'un qui carrément il revient à ce qui s'est passé, à l'amour qu'il y avait au début, mais encore plus. À partir de là, le jour de Kippour devient un jour de pardon. Mais donc, Moshe il est descendu le jour de Kippour avec les tables de la loi. Naturellement, tous les peuples se sont réunis avec lui. Moshe, il n'a pas encore passé le message qu'il devrait passer. Il a passé quelques messages qui concernent le jour même. Mais le lendemain, il a réuni le peuple à nouveau. C'est ça l'idée de Vayakel. Il a réuni le peuple. Et il a leur passé deux messages. Le premier message était le message de Shabbat. Alors, même si le Shabbat était déjà connu, c'est pas la première fois qu'on parle de Shabbat. Ils le connaissent depuis des mois, l'idée de Shabbat, ils ont même pratiqué le Shabbat depuis que le man existe. Le man, donc, c'est le pas qui tombait du ciel. Mais quand même, Moshe, il commence par Shabbat, et ensuite, il leur dit les devoirs de construire le temple. Et Rashi nous explique, c'est pour nous dire que l'un ne doit pas aller sur le compte de l'autre. Ça veut dire que même si que le temple est très important, mais pas sur le compte de Shabbat. Là aussi, il y a d'autres idées intéressantes que j'ai un petit peu je laisse de côté pour le moment. Donc, alors, finalement, dans notre paracha, de ce qu'on parle beaucoup, c'est des détails. Donc, Moshe, il passe au ministère. Tout d'abord, il demande les matériaux, que chacun il participe. Et c'est important que chaque détail, chaque individu participe. Dans certains détails, il n'y a pas de différence entre riche et pauvre, tout le monde donne la même chose. Et dans d'autres détails, ça dépend de sa richesse, de sa générosité. Donc, il donne les détails. Le peuple, comme il est marqué dans la paracha, il donne plus qu'il faut, à tel point que Moshe demande d'arrêter, il y a trop. Ensuite, ça commence. Les détails commencent, on commence à donner les détails. Et pardon, on commence à construire. Alors la Torah nous dit que Bezalel, avec les hommes qui étaient avec lui, il a construit tel détail. La Torah nous donne beaucoup de détails, comme la première fois, une répétition. Et finalement, on termine cette paracha avec tous les détails, donc tout ce qu'il a construit. Donc alors la paracha, elle s'appelle Vayakel, il a réuni, et pourtant, le sujet de la paracha, c'est les détails. Il a fait tel détail. Ensuite, la seconde paracha commence par le nom Pekudei. Pekudei, ça veut dire les comptes. Moshe, il a donné les comptes de l'argent et de l'or, ce qu'il a utilisé pour le temple. Donc, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai reçu et qu'est-ce que j'ai donné. Donc, le nom de la paracha, donc, c'est les détails. Parce qu'on parle ici de Moshe qui a donné les détails. Mais ensuite, la Torah nous rajoute encore certains détails sur les détails. Ça veut dire qu'ils ont fait les vêtements. Et ensuite, surtout, la Torah se base sur le temple qui était terminé. Donc, on a mis tous ces objets terminés, étaient amenés à Moshe, comment Moshe l'a construit, et comment finalement, de tous ces détails, il y avait un ensemble qui s'appelle le Mishkan. Et à ce moment-là, l'honneur de Dieu est descendu sur le Mont Sinaï, c'était présenté comme un nuet. Un nuet, c'est quelque chose qui représente Dieu dans ses notions. Peut-être on ne va pas parler de ça pourquoi aujourd'hui. Mais donc, alors, si on résume un petit peu les deux parachiotes, dans la première paracha, il y a les détails. Dans la deuxième paracha, il y a l'ensemble. Alors, C'est que, comme le rabbi de Lubavitch, comme son habitude, de faire remarquer les petits détails, ce qui ne va pas, et donc montrer à ce moment-là, à partir de ce qui ne va pas, comment c'est tellement grandiose, comment c'est tellement beau. Et finalement, le message de ce qu'on peut retirer, de ce qu'on peut tirer aujourd'hui comme message. Alors, il pose une question simple. Le nom de la paracha, selon nos traditions, tardif, ça commence par quelques siècles. C'est marqué dans un livre qui s'appelle Shnei Luchot HaBrit, mais on compte dessus que le nom de la paracha sens à donner l'essence de la paracha. Donc ça veut dire le nom de la paracha, même si on a choisi le nom de la paracha selon les premiers mots, ou bien un des premiers mots, comme ça il y a quand même un choix à faire selon certaines logiques, mais quand même toujours c'est le début de la paracha, qu'on a choisi un mot ou deux mots, et c'est le nom de la paracha. La première paracha, elle s'appelle Vayakel. Pourquoi? Parce qu'au début de la paracha, Moshe, il a réuni le peuple. La deuxième paracha, elle s'appelle Pekudeh. Pourquoi? Parce qu'il est marqué, voici les comptes. Moshe, il a donné des comptes. Donc, la première paracha, elle s'appelle Vayakel. L'union, Moshe, il a réuni le peuple. La deuxième paracha, elle s'appelle Pekudeh. Parce que Moshe, il a donné des comptes. Donc, on cherche à voir dans la première paracha, selon cette vision, que la première paracha parle d'union, quelque chose qui unit tout le monde, et la deuxième paracha parle de détails, comment chaque détail est important. Et pourtant, lorsqu'on rentre dans les détails, on voit que c'est le contraire. La première paracha, elle parle de Vayakel. Vayakel, ça veut dire il a réuni. Alors c'est vrai qu'il parle de réunir le peuple, mais nous on a dit que tout est lié. Réunir le peuple, réunir les objets, il y a une similitude entre les deux. Donc alors, la paracha, qui son nom est les notions d'union, parle de détails. Tel détail, tel détail, tel détail. Et la paracha, qui son nom est les détails, parle d'union, parce que finalement, une fois qu'on a terminé tous les détails, on a réuni, c'est ça le sujet, l'objet principal de cette deuxième paracha. Donc, comment on peut comprendre que la première paracha, que son nom, l'union, elle souligne surtout les détails, et la deuxième paracha, que son nom, les détails, elle souligne surtout l'union. Et là, il développe une idée, il donne des exemples, mais je vais essayer d'être un petit peu plus simple. Peut-être avant, donner un exemple très simple dans d'autres domaines. Imaginez-vous que une voiture, une usine de voitures, il y a dans telle usine, on fait tel détail, les pneus ou bien les roues, les pneus, on peut faire beaucoup de choses, et dans telle usine, on fait d'autres choses. Alors, dans ces usines, ce qui nous intéresse, c'est le détail. On est basé sur le détail. Il y a des usines ensuite qui réunissent tous les détails, ils forment de ça, un ensemble. Donc, une voiture qui sort, à partir de là, les détails font partie, ils sont détails d'un ensemble. Mais d'un coup, ils perdent quelque part de leur importance, parce que avant, c'était un objet à part. On les comptait à part. À partir de là, c'est quelque chose qui fait partie de l'ensemble. Et comme on a dit tout à l'heure, que parfois dans notre vie, on a l'impression qu'un détail, il est important lorsqu'il est à part, mais lorsqu'il fait partie d'ensemble, il part de son identité et il devient un ensemble, donc il part de son identité. Alors ça, c'est pas la vision de la Torah, c'est ça qu'on peut tirer comme un enseignement. Et peut-être encore une fois, pour donner un exemple, que le problème existe, c'est, on peut dire comme ça, quelqu'un qui se trouve chez lui à la maison, il grandit à la maison, donc alors on lui donne une importance, c'est le fils, c'est la fille, on donne son importance. Lorsqu'il va à l'école et d'un coup il y a 20 élèves, 30 élèves, il y a des enfants qui perdent de leur, quelque part, de leur importance, si on peut dire visiblement, ils ne trouvent pas leur place. Ils font partie d'ensemble, mais ils ne sont pas ce qu'on est à la maison spéciale, on est aimé d'une façon spéciale. Et c'est un grand problème qui existe depuis très longtemps. Comment faire en sorte que les détails ne perdent pas de leur importance lorsqu'ils sont parmi le général. Alors, dans le judaïsme, dans la loi juive, il y a plusieurs choses. Il y a parfois où les détails, tant que détails, ne prennent pas de place. Le rabbi donne un exemple, au niveau halakhique, peut-être je ne vais pas... Peut-être qu'on peut donner un exemple très simple, un vice, ça ne coûte pas très cher. Il y a des gens qui font des travaux, il y a un vice qui tombe, ils le laissent tomber, ils ne regardent même pas, ils ne vont pas le ramasser. C'est un vice. Mais parfois, cette vis, si elle manque dans l'endroit, elle stoppe. Sans cette vis, alors ça peut être une catastrophe. Donc alors, lorsque le vice, parfois, il fait partie d'ensemble, il a son importance, mais quand il a quelque chose à part, il n'a pas son importance. Bien, on n'est pas des vices, nous, les humains, mais quand même, ça peut être un exemple. Donc, dans la Torah, on trouve trois catégories. On trouve une catégorie de gens qui n'ont pas d'importance tant qu'ils ne font pas partie d'ensemble. On trouve des catégories qu'on est important sans être partie d'ensemble, et pourtant, lorsqu'on fait partie de l'ensemble, l'importance des détails devient plus importante. Parce que non seulement que je suis tel détail, je fais partie de cet ensemble qui est très important. Et ensuite, il y a une autre notion qu'une fois qu'on fait partie de l'ensemble, alors le détail, tant que détail, devient très important. Le rabbi donne cet exemple au niveau du temple, mais peut-être on peut donner un autre exemple qui est plutôt lié avec notre monde. Imaginez-vous, bien... quelque chose qui faisait partie des palais de Louis XIV. Alors lorsqu'on va le vendre, les petits détails, puisqu'il faisait partie de l'ensemble, alors ça va donner une importance, même si c'est une petite chose, mais ça fait partie d'un ensemble et très important, donc le détail aussi est important. En tout cas, c'est un sujet qu'il faut expliquer, et c'est difficile à expliquer, mais la Torah veut nous pousser à réfléchir comme ça. Que l'ensemble, dans la vision du judaïsme, non seulement que l'ensemble ne doit pas annuler les détails, le contraire, l'ensemble doit construire les détails. Grâce au fait que je fais partie des détails, je ne me perds pas dans la masse, mais le contraire, en tant que détail, si je m'occupe bien de moi-même, ça veut dire que si je fais mon rôle, les détails, elles, non seulement qu'elles ne se perdent pas dans l'ensemble, mais le contraire, elles se renforcent, les détails deviennent plus importants. Et dans la deuxième paracha, on fait attention en deuxième partie, ça veut dire que lorsque les détails font vraiment leur travail, et qu'apparemment, les détails, il fait parfois opposé, puisque moi, je pense à moi, ça dérègle l'ensemble. Alors, le contraire, quand je m'occupe bien de mes détails, alors ça renforce l'ensemble. En tout cas, je sais qu'il faut rajouter des explications dans cette notion, mais en tout cas, ça, c'est ça que la Torah veut nous dire. Les détails renforcent l'ensemble et l'ensemble renforce les détails. C'est pour ça que la paracha qui s'appelle ensemble. Alors pour être vraiment ensemble, c'est pas qu'il y a plusieurs moutons qui n'ont pas chacun leur identité comme chez les humains. Non, l'ensemble, ça fait lorsque tous les détails, et chacun donne de soi à fond, ou pas à fond, mais en tout cas chacun donne de ce qu'il a. Chacun utilise ses qualités, donc il renforce l'ensemble. Donc, Vayakel, donc l'ensemble, est important qu'il y aura des détails, que les détails soient là, font partie de l'ensemble. Mais d'une autre part, comme on a dit tout à l'heure, le général, non seulement qu'il annule pas les détails, le général doit renforcer les détails et dire, puisqu'il y a des générales, alors chaque détail est important. Et d'une autre part, le détail renforce l'ensemble. Pour terminer, je sais que c'est pas simple comme idée, mais en tout cas pour terminer, ça c'était parmi les derniers discours du Rabbi qui nous a laissé un message, puisqu'on est à la veille de cette période messianique, qu'aujourd'hui, parfois, on se perd dans la vision du monde, on se demande, on a beaucoup de questions, mais la vision messianique, c'est justement qu'aujourd'hui, on a un problème de paix, parce que parfois, les détails, donc les différents peuples, les différentes croyances, les différentes manières de voir le monde, font qu'on n'est pas ensemble, qu'on est opposé. Et pas seulement dans des détails, chacun doit s'exprimer. Et si quelqu'un ne trouve pas sa place, alors à ce moment-là, il peut déranger l'ensemble parce qu'il a besoin de sa place. Selon la vision juive, encore, ce n'est pas automatique, ce n'est pas quelque chose, c'est quelque chose qu'il faut travailler dessus. Mais en tout cas, la vision juive, c'est que normalement, les détails ne doivent pas déranger l'ensemble, au contraire, ils doivent construire l'ensemble, et l'ensemble, il ne doit pas annuler les détails, l'importance de chaque détail. Donc, on est dans un monde où il y a un grand ensemble, et pourtant, chaque détail, il garde sa place, et c'est ça, cette notion messianique. Merci beaucoup, et qu'on voit ces jours de paix dans le monde, et pourtant que chacun, il trouve sa place. Merci, et à la semaine prochaine.
Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.